Let's go live now from the Tower of Doom.
Mettons béret, légionnaire.
This is Moray Live.
On devient légionnaire et on reste jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.
From the Radio X World Headquarters, here is your legendary Legion of Doom.
Yes, je commence par ceci. On est encore, en effet, dans le bilan de François Legault, de toutes ces années où il a été là. Et il y a eu un moment quand même de la carrière de François Legault, surtout un moment de son temps en tant que premier ministre, où les médias et la CAQ travaillaient beaucoup dans la même équipe.
Oui, c'est
et
le CAQ show.
On n'a jamais fait de post-mortem de ça, donc on maintient toujours aujourd'hui les apparences que c'était extraordinaire.
Il faudra voir ce que l'histoire va retenir. Sûrement de très bonnes choses sur le premier mandat, parce que le premier mandat qui a été marqué par la pandémie de la COVID, a su gérer cette crise avec brio. Il a rassuré la population dans des moments difficiles. Bref, il a bien fait son travail. La preuve en est qu'il a fait élire 90 députés à l'élection suivante.
Donc voilà, c'est réglé, c'est prouvé. Il a été extraordinaire pendant la pandémie. N'en parlez plus, ne posez pas de questions.
Il était rassurant avec ses alertes.
Oui. Tout a bien été, les gens.
Un boomer, Yves.
Oui.
C'est un Jacques.
J'en ai un autre, Yves Malot, à l'instant. Là, ça n'a pas rapport avec la pandémie.
C'est Jacques Malot, là.
Ça peut être un Yves aussi.
Non, ça peut être un Yves.
Ouais, mais
c'est un Jacques.
Oui, c'est un Jacques. C'est
oui.
Il est dans cette génération-là, c'est ça.
Amiata avec Louise.
Il était rassuré par Legault.
Lui était rassuré et il aime, lui, le gros gouvernement. Il aime ça, puis il faut que ça reste pareil. Et là, je vous fais jouer un extrait. Tout ce que vous allez entendre dans le prochain extrait est faux. C'est concernant Pierre Poilievre qui veut qu'on enlève les taxes sur l'essence.
Il y a le chef conservateur Pierre Poilievre qui a proposé de suspendre jusqu'en 2027 les taxes fédérales sur l'essence. Yves, ça va sûrement trouver des appuis dans la population. Là, c'est toujours populaire quand on dit on veut abolir une taxe, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée?
Non, il n'y a aucun économiste qui dit que c'est une bonne idée parce que de 25 cents le litre les taxes fédérales sur l'essence, le gouvernement se priverait d'à peu près 7 milliards de dollars de revenus, mais ce serait de penser que personne dans la chaîne se dirait « Tiens, voilà une belle occasion d'augmenter les profits sans que ça change sur la facture habituelle des consommateurs. » Et généralement, ce n'est pas productif.
Alors, généralement, il n'y a aucun économiste, c'est drôle, j'en connais, mais qui sont pour ça. Puis c'est ça, les pétrolières vont reprendre la marge.
Oui.
Faudrait passer le message aux pétrolières. Ils n'ont pas compris encore en Alberta et en Ontario qu'il fallait qu'ils reprennent la marge.
Faites le temps, vous avez le droit.
Il y a 13 cents de différence avec l'Ontario, puis il y a, je pense, pas loin de 30 cents de différence avec l'Alberta présentement. Donc, les pétrolières, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu le message. Faudrait que Marlowe les appelle.
Écoutez le thème de voix aussi quand il parle du peuple.
Oui.
Le dédain et le manque de respect des journalistes, ou de plusieurs journalistes, devrais-je dire, envers le peuple. Le peuple veut. C'est populaire, hein? Promettre des baisses d'impôts, c'est populaire.
Oui.
Et à surveiller le narratif « augmenter les impôts ». Je faisais une saisie d'écran d'RDI la semaine passée. Veille, un texte il y a deux semaines ou la semaine passée. Il y a une spin qui est en train de se faire. Là,
oui.
Avec des syndicats derrière ça. Faut augmenter justement, les impôts des riches. Ça va être la spin des riches. Au Québec, 100 000 et plus, t'es riche. T'es pas riche. Mais dans la tête du monde. Hein? Donc, ça va être ça, le narratif. On augmente pour des meilleurs services. Ça va être ça, la twist. C'est ça, la twist qui est en train de s'opérer, les amis. Vous saurez me le dire. Et à un moment donné, vous allez dire, Moray avait raison.
Gardez toujours en tête aussi, quand les gens des médias vous disent, ah non, le gouvernement va se priver de X montant, là. Le message, c'est vous qui devez vous priver. Pas le gouvernement. Le gouvernement ne doit jamais se priver. Vous devez vous priver de cet argent-là.
C'est des bons services, il manque d'argent pour les services.
Tout va tellement bien. Dans le même ordre d'idée.
Tant qu'ils en ont encore assez pour subventionner le job, là. On l'a vu la semaine passée avec la presse puis
oui.
Charlebois. Yves Malot, s'il dit le contraire, il va perdre sa job. C'est rendu des porte-parole. En fait, oui. Ils font juste gagner moins d'argent que Guillaume Lemaitre-Vierge, mais c'est des porte-parole du gouvernement.
Toute la même business, la business du gouvernement.
Oui.
Dans le même ordre d'idée, dans l'émission Marie-Louise, sur la baisse du prix de l'essence.
Et suspendre toutes les taxes, 20$ par plein, affamer l'État et toutes ses missions sociales pour soulager les pick-up. Fallait affamer y penser quand même. Sûr que les pétrolières ne vont pas augmenter leurs marges en conséquence, mais lui dit non, on a juste à éliminer le projet de TGV entre Montréal et Toronto qui fera entrer le pays au 20e siècle. Ce qui m'étonne, Marie-Louise, quand même, c'est que personne ne propose jamais que les pétrolières soient moins gourmandants. ExxonMobil, Suncor, Shell, des milliards de profits qui augmentent encore parce que, regardons, le coût du pétrole et les prix aussi, avec la guerre qui fait gonfler leurs profits. Pourquoi ce ne serait pas elles qui réduiraient leurs bénéfices, le bénéfice de leurs actionnaires, juste pour 2 ans après tout? C'est elles qui ont mis Donald Trump au pouvoir.
La fin complète.
Non, c'est complètement débile mental.
OK, fait que là, on résume. Là.
Complètement fou.
Faut pas baisser les taxes parce qu'on va affamer le gouvernement. Pauvre petit gouvernement qu'on va l'affamer.
Ben oui.
Tout ça pour des pick-up. Ah, des pick-up. On est bien mieux de mettre de l'argent sur un beau TGV parce que ça, on va rentrer dans la modernité grâce à un TGV.
Ah oui!
Oui, comme en Europe. Là. C'est tellement fabuleux en Europe, les TGV.
Il
n'y
aura pas un shot d'un, mais c'est pas grave, on l'a!
C'est pas grave, c'est moderne. Regarde, on va se sentir, tu sais, passer à un autre niveau parce qu'on va avoir notre petit train. Ça va être le fun. Puis c'est ça. Puis les méchantes pétrolières, c'est elles qui devraient se priver de revenus, pas le gouvernement. C'est parce que...
c'est complètement fou, ça, cet extrait-là, là. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Là.
Il y a beaucoup de choses en date 45 secondes. Il recevait aussi dans l'émission de Marie-Louise Joe le prof. Ça, c'est un gars sur les réseaux sociaux. C'est un vrai professeur. Je ne me souviens plus dans quelle région au Québec il est, je pense.
En Abitibi, je pense.
Quelque chose comme ça. Lui, en tout cas, il a quand même beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Très à gauche, bien sûr, c'est pour ceux qui le reçoivent dans le show à Marie-Louise.
C'est clairement pas un auditeur.
Non, c'est clair. Puis un moment donné, justement, il parle de Duhaime.
Vous parliez d'Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur. Je vous cite, après l'annonce le 24 mars du passage de Maïté Blanchet-Vézina au Parti conservateur, je vous cite, sur Blue Sky, par deux fois, Éric Duhaime aura eu besoin d'une femme pour entrer à l'Assemblée nationale.
C'est ironique quand même.
Mais c'est la vérité. Ça, c'est un fait, bien sûr. Pourquoi vous faites ça? Des commentaires un peu...
Pourquoi c'est ironique? C'est des conservateurs, fait qu'ils sont anti-femmes.
Ben oui.
Ils n'ont aucune ironie là.
Non, yes.
Mais dans sa tête, il y en existe une.
Danielle Smith, c'est ironique?
Ouais, mais c'est pas une vraie femme, ça. C'est pas une femme comme du monde.
Elle n'a pas de vrais organes.
Ben oui. Mais justement, tu sais, l'identité, c'est dans la tête. Fait qu'elle, c'est pas une vraie femme.
Non, c'est ça.
Parce que mes sentiments sont qu'elle, c'est pas une femme.
C'est complètement.
Tant qu'elle est, c'est l'étape.
C'est débile.
C'est l'étape
débile,
plus loin, débile, là. Débile. D'ailleurs, tu sais, ça, il s'exprime beaucoup politiquement sur les réseaux sociaux. Comment les parents trouvent ça? Ben, en gros, les parents sont contents, puis ceux qui sont pas contents, ben, c'est eux autres le problème.
Sur 99%, j'ai des commentaires ultra positifs. C'est les parents souvent qui disent aux jeunes « Hey, tu vas être dans la classe de Joe le prof cette année, j'aimerais ça être à ta place, tu vas voir, c'est le fun. » Ils vendent mon cours avant même que je les ai rencontrés. Mm. Mais il y a une petite minorité, je les appelle toujours le 5% en troupe d'opposition qui sont dans toutes les sphères de la société, qui vont toujours trouver quelque chose de négatif à dire. Et ça revient souvent aux mêmes enjeux. C'est les mêmes qui, sur les réseaux sociaux, vont être ceux qui insultent les gens, les mêmes qui vont commencer à critiquer tout et rien. Donc, on y retrouve aussi en tant que parent de nos jeunes. Et moi, souvent, ce que je fais, j'essaie...
Donc, OK, en gros, là, si vous êtes d'accord avec lui, là, vous êtes un bon parent. Puis vous êtes sûr que vous êtes une bonne personne tout le temps, il n'y en a pas de problème.
Vous êtes dans le camp du bien, dans le camp de la complaisance.
Exactement. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, si vous trouvez que, c'est parce que là, à un moment donné, tes opinions, tu peux quand même les garder pour toi, enseigne. Puis le reste, essayer de... d'endoctriner les jeunes. Lui n'endoctrine pas les jeunes. En fait, c'est ses parents qui endoctrinent leurs enfants.
Mon objectif, c'est que le jeune, lui, une fois dans ma classe, il va se la faire lui-même, sa propre opinion. Parce que souvent, les jeunes arrivent avec l'opinion des parents, mais à la fin de l'année, s'il y a un moindre petit changement, je vais me dire, au moins, je vais avoir semé une graine dans la tête de cet enfant-là.
Enseigner le libre-arbitre, en fait.
Exactement.
Bien sûr, c'est ça, devenir un citoyen, penser par soi-même.
On nous traite d'endoctrineurs, mais j'ai pas l'intention d'endoctriner personne.
On vous traite d'endoctrineurs.
Endoctrineurs, parce que je corromps la jeunesse avec mes idéaux de gauche radicale. Donc, dès qu'on parle de bien commun, d'environnement, de respect des autres, donc automatiquement, on devient quelqu'un qui est à l'extrême.
Comment vous expliquez ça?
C'est une très bonne question, mais je pense qu'on peut revenir encore à Donald Trump. C'est son dédouanage des discours haineux fait qu'aujourd'hui, tout est accepté, il n'y a plus rien qui dérange. Donc, si Donald Trump, le président des États-Unis, peut dire des atrocités, peut faire des atrocités, pourquoi je ne le ferais pas moi non plus?
Il y a une violence sous-jacente, bien sûr, qui profite de cette rhétorique-là.
Ouais, c'est ça. C'est...
Eh bien, il passait une Christie de change pas aller, là. Il m'avait invité.
Ouais, je sais.
Ça, là.
Eux autres, c'est le bien.
Rien à faire.
Donc, ils n'endoctrinent pas parce que c'est le bien qui enseigne.
On me dit que je suis de gauche radicale, mais dans le fond, je suis pour l'écologie, je suis pour le multiculturalisme.
Mais pour le bien commun.
Je suis pour open borders.
Bien commun égale gros État, là.
Mais... Les prières de rue. Oui, soyons tous des amis. On est tous des amis. On se tient par la main, on danse. Youpi lai, 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 youpi yé.
Et juste un peu plus tard, on a les réactions des auditeurs qui sont en pamoison. En passant, les rares fois... Caradcan, en dehors de leur chambre d'écho, ils reçoivent des commentaires négatifs. Ils lisent en ondes et ils méprisent la personne. Mais là, alors, tous les commentaires étaient bons.
Les questions qu'on a posées à Jonathan, le prof Jean-Philippe Chipriani, ont fait réagir les gens qui nous écoutent aussi.
Oui, un auditeur qui nous écrit comment les jeunes peuvent ne pas être anxieux ou apathiques s'ils voient que tout est à peu près géré par des hommes blancs riches de 50 ans et plus. Quand ils se mobilisent, les plus vieux les traitent d'idéalistes naïfs et trouvent ça mignon, mais ils en font à leur tête. Et une autre qui dit, elle est professeure à l'université en travail social, dit que les étudiantes sont anxieux, mais restent animés de justice sociale et sont résolument tournés vers l'action. Et Christine qui nous dit que ces quatre enfants vous ont eu comme prof. Ah! Vous les avez fait sortir de leur chambre
d'écho. Les quatre!
Alors, bravo.
Wow! Voilà.
Wow!
La musique en arrière.
Ouais, parce qu'ils partaient vers la pause. Là. Mais les expressions de la gauche, hein, justice sociale, le bien commun. C'est toujours...
Ils ont kidnappé le camp du bien et ils veulent constamment vous écarter de tout ce qui est charitable. Parce que, pour eux, la droite, c'est des écœurants. La droite, c'est... Des égoïstes, des exploiteurs. C'est pour ça que... Ça, c'est une vieille histoire, mais quand même, je vais le raconter. C'est pour ça qu'on avait été écarté du parrainage des immigrants ici, au centre des immigrants. Parce que c'est une gang de QS qui m'ont rencontré. Pas le bien. Êtes-vous le Dominique Moret de Radio X? Nous autres, on était prêts à parrainer
Mon préfère qu'il n'y ait pas de parrain pour ces immigrants-là, que ce soit vous.
Exact. Parce
c'est un peu
que,
ça, là.
J'aurais parlé de mon expérience, mais pour eux autres, non. Je suis satanique. Je suis dans la droite, satanique, égoïste, pollueur, écœurant, exploiteur. Faut pas briser le cadre, faut pas briser la matrice. Ça ne fit pas dans la matrice.
Ben regarde, je vais essayer de rentrer, c'est quoi le bilan de la gauche? Quand même, ouais, pas selon eux autres, là, mais quand même au pouvoir au Québec depuis plusieurs décennies.
Donc, après nos routes, nos écoles, nos barrages.
Oui, les infrastructures au Québec, je pense qu'on a besoin d'un
bon
investissement.
On n'a pas été très bon pour l'investissement.
Voilà, plusieurs de ces barrages qui sont fissurés, percés, carrément en fin de vie.
Et les hôpitaux. J'oublie les hôpitaux.
Oui. Un autre sur la liste, voilà.
Oui, ben là, c'est rendu normal. Ouais. Ben, c'est ça, toutes les infrastructures sont scrap. C'est pas grave. C'est de même. C'est comme ça. On est dans...
Mène à ton chum de tabletter le tramway, puis il va en avoir plus.
Ouais, il y a ça. Mais...
Ben, attends un peu, faut que je prenne une gorgée de mimosa.
Mais on est beaucoup dans le constat. Et c'est ça, regarde, je vais rentrer là-dedans. Documentaire
c'est
de Ricardo.
C'est là qu'il fallait que je rie.
Ouais. Documentaire de Ricardo sur les écoles.
Ouais, c'est là qu'il faut riser.
On est dans le constat. C'est pas un mauvais documentaire, honnêtement, celui de Ricardo, mais on est beaucoup juste dans le constat de ce
voyez
qui
ce
va
qu'on
pas.
Sait déjà.
C'est les évidences, mais quand même. Bon, les écoles sont en ruine.
Où est-ce qu'on l'a échappé?
On l'a échappé, là, 35
ans. Ça fait longtemps.
D'un gouvernement à l'autre, d'une génération à l'autre, on l'a pas fait.
Ouais.
Puis là, ben, on le réalise.
Hey, ça, c'est vraiment le bout du bout. Ils ont déménagé les jeunes d'une école qui tenait avec de la broche dans une autre école qui tient avec de la broche.
Il y a plus de 3300 établissements d'enseignement primaire et secondaire au Québec. Plus de la moitié d'entre eux sont jugés en mauvais ou en très mauvais état. À Montréal, c'est le trois quarts.
C'est 2 % du budget
de la valeur du bâtiment
qui devrait être investi en entretien.
On n'a pas fait ces investissements-là dans les 50 dernières années. Alors maintenant, le 2 % je veux dire, on n'en est plus là. Donc, il faut, pour les écoles qu'on construit, les agrandissements qu'on l'on fait présentement, tendre à faire cet entretien préventif-là qui est régulier.
Ça, retenez-le quand même, parce qu'elle a raison là-dessus. Je comprends qu'elle défend son gouvernement, mais elle a raison. Là. C'est pas juste les 8 dernières années de la CAQ qui ont créé la situation dans laquelle on est présentement. Là.
40
c'est
ça.
Les 40 ans, ils ont le bon chiffre. 40-50 ans. Hey, les écoles primaires En effet, ils appellent les écoles du Plessis dans le reportage.
Hérité
dans le documentaire.
Du clergé.
Oui.
Et aujourd'hui, vous allez dans ces écoles-là, ça sent encore le clergé, mais pas nettoyé.
École primaire égale années 50, beaucoup, et même avant.
Je suis allé dans mes anciennes écoles.
Puis les écoles secondaires, les polyvalentes, là, regardez ça, c'est toutes les années 70. Là.
Oui.
Toute la gang, là.
Ça sent le PQ.
Dans le temps qu'il a obligé le monde à aller à l'école jusqu'à 16
ans. Oui. Ça, c'est dans le temps de... Le premier gouvernement péquiste.
Moi, c'est exactement mon passage scolaire. Mon école primaire a été fondée en 1950. Puis mon école secondaire, c'est la Poly de Charlebourg, dans les années 70.
Ouais, mes écoles secondaires ont été construites dans les années 70, puis la seule rénovation qu'il y a eu depuis, c'est qu'ils ont enlevé le fumoir.
Une école bâtie dans le temps de Lise Payette.
Mais là, on en fait quand même quelques nouvelles. On manque de place pareil. Il y a des bouts, d'ailleurs, dans le documentaire qui sont ici dans la région de Québec. Ils vont, entre autres, à la nouvelle école dans le coin du Zoo. Là. Les nouvelles écoles, il y en a une primaire, une secondaire.
Ah oui, c'est leur école, eux autres. Leur bébelle, la bécole.
Où on a ajouté aussi, ben là, on est rendu à ajouter du modulaire.
Les modulaires, pour moi, là, c'est pas une solution. Là. C'est temporaire, hein? Temporaire. Ça devrait toujours être temporaire.
Temporaire? Puis ça veut dire quoi, ça, temporaire? Un an, deux ans, trois ans, dix ans?
Bien, actuellement, dans le réseau, on entend du temporaire 30 ans.
Le nombre croissant de modulaires, c'est pas juste dû à l'augmentation du nombre d'élèves. C'est aussi une conséquence des restrictions budgétaires en éducation. Il y a d'ailleurs près d'une centaine de projets d'ajout d'espace qui ont été mis sur pause.
Ouais. Je comprends que
là-dessus, c'est un peu erroné, là.
Ben, c'est parce que... Ouais.
Ils mettent plus d'argent en immobilisation.
C'est ça.
C'est qu'il y a une explosion des jeunes venant de l'immigration. Dites la vérité aussi, là.
Non, non, mais c'est locataire.
C'est documenté, ça.
Le gouvernement du Québec devrait être locataire partout.
Ouais, mais ça, Bernard Drinville, il dit qu'il veut pas, ça.
On devrait être locataire.
On n'a pas à être propriétaire. On n'a pas à construire non plus.
On va demander à Joe Lachine, ça.
Je vais y arriver à ça, là.
Je vais démolir.
Sais-tu quoi, tellement...
S'il faut démolir 60 écoles... On va les démolir.
Locataire dans un marché tellement agressif là, que tu permets à quelqu'un de bâtir une autre école pour venir concurrencer le bail que tu as signé.
Ben oui. Ce qui est grave.
Oui.
Ça,
Joe Lachine ça à l'éducation, j'aimerais.
Puis tu mets prison à vie pour toute collusion. Est-ce que je te réglerais ça, moi?
Et Joe Lachine ça, ministre de l'Éducation, si Drinville est élu.
Ils mettent ça de l'avant, puis ça, c'est grave quand même. Pendant qu'ils ont fait le documentaire, il y avait de la difficulté à parler à des profs. Parce que, puis on l'a vu ça aussi pendant la pandémie, maintenant, tu travailles pour l'État, t'as plus le droit de parler, sinon tu vas te faire bisbailler carrément.
Un nouvel article de loi datant de 2025 oblige les centres de services scolaires à imposer un code d'éthique à tous leurs employés. Ils doivent, entre autres, s'abstenir de tenir publiquement des propos négatifs envers leur employeur et obtenir une autorisation avant de s'adresser aux médias. On l'a vu de façon très concrète quand on a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour obtenir des images des écoles vétustes. Plusieurs employés ont hésité, certains ont même renoncé à participer. Ils avaient peur d'être sanctionnés.
Pour la majorité du personnel, le devoir de loyauté existe. C'est quelque chose qui est documenté, qui a des aspects juridiques à ça.
Le devoir de loyauté, c'est tout le contraire de la liberté d'expression. C'est une forme de censure qu'on essaie d'imposer. Moi, dans le fond, je ne parle pas contre personne, je parle pour l'élève. Donc, le devoir de loyauté,
bon
c'est envers
point,
eux, pas envers des bureaucrates.
Et c'est bon.
OK.
C'est non, bon, mais, ça.
Mais moi, je vais t'ajouter une coche de plus, parce que là, il parle de liberté d'expression, il parle de loyauté envers l'élève. Loyauté envers l'employeur, c'est des employés publics, ça. C'est moi, l'employeur.
C'est ça, exactement.
Leur loyauté est envers moi, envers le payeur
de
taxes.
Et quand je veux dénoncer une situation, c'est pour les enfants.
Exact. Oui,
c'est
mais aussi...
C'est pas contre la CAQ.
Non, mais,
ouais,
mais
on a travesti
je m'en sacre la CAQ. L'employeur, c'est moi.
Mais on a travesti ça, c'est-à-dire cette liberté d'expression-là. Hey, qu'est-ce que tu blesses la CAQ? Tu blesses le gouvernement? Tu blesses la commission scolaire? Non. Je veux que mes jeunes arrêtent de respirer de la poussière. C'est pour ça que j'ai envoyé une photo de l'échangeur d'air à Radio X. Continuez à nous envoyer du stock, les livers,
oui.
En passant.
Mais ça devrait pouvoir être fait de manière publique.
Si
toi, tu reçois ça, puis ouais, nomme pas mon nom, etc. Mais ça devrait pouvoir être fait de manière publique parce que leur loyauté est envers le public qui paye, pas envers le gouvernement qui est là temporairement.
Et l'objectif étant le bien commun ultime.
Oui.
L'objectif, c'est pas faire la diffamation.
La gauche, justement, veut parler de bien commun. Ça, ça serait du bien commun.
Oui.
Mais encore une fois, regarde. Puis le point
le
aussi,
peuple,
après, est bon, là.
Les enfants, tout ça, ce n'est pas important.
Non.
C'est les
je t'ai vu ce matin, avant de partir à la maison, tu as rempli ta gourde d'eau. Il n'y a pas d'eau dans l'école?
Il y en a, mais elle est chaude.
Elle est chaude?
Moi, je trouve qu'elle goûte un peu la rouille.
Elle goûte la rouille, moi, peut-être que les tuyaux sont peut-être vieux.
Ouais. Elle goûte le métal.
Ouais, elle goûte le métal.
Je suis pas certain qu'à l'Assemblée nationale, les toilettes sont sales.
Mm-hmm.
Je suis pas certain non plus qu'il y a des trous dans les murs. Je suis pas certain non plus qu'il y a pas de ventilation puis qu'il y a pas de climatisation. Je trouve que c'est un peu être hypocrite de dire que les enfants sont notre priorité quand on n'est pas capable de leur donner des conditions physiques quand même dignes d'une école.
Les enfants sont pas importants, là, au Québec.
Non.
Ben, les enfants sont pas importants aussi.
Mais je suis obligé d'élargir. Oui, oui. Les bureaux de fonctionnaires, ils ont pas des trous. Ils ont de l'air climatisé. Ils ont tout ce que les écoles ont pas.
Pas le Club Med non plus, là, Dom. T'sais, on peut pas généraliser, dire... Les bureaux de fonctionnaires sont tous extraordinaires. Là, dans certains sous-sols, dans des régions, ça doit pas être top.
Puis, sais-tu quoi? Ben, même dans les écoles, souvent, là, les bureaux de la direction vont avoir l'air climatisé, vont avoir tout ce que, vont avoir l'eau froide.
Oui, oh oui, absolument. Là.
Mais pas dans le reste de l'école.
Il y a discrepancy, absolument.
Il y a tout ça. Mais ça, c'est vrai aussi. Les malades sont traités de la même manière au Québec? Les personnes âgées sont traitées de la même manière au Québec?
Ben, va voir les bureaux des CIUSSS. Le bureau du directeur ou de la directrice du CIUSSS.
Versus l'hôpital ou le CHSLD.
C'est sûrement un coin avec des vitres, belles fleurs, les ci, les ça. Y a-tu moyen aussi, en terminant, parce que c'est terminé?
Oui.
T'en veux un dernier?
Ben, ouais.
Ouais. Y a-tu moyen de nous montrer des photos des garderies? Les cours extérieurs des garderies. Ça, c'est peut-être la suite pour Ricardo. Là. Parce que là, on s'occupe des enfants. Là. OK, parfait, les enfants, à partir de 5 ans. Ben moi, c'est entre 0 et 5 qui m'intéresse aussi. Je vous le dis, là, faites le tour, un tour de machine à Québec. Là. Regardez des cours extérieurs. C'est sacrifice à fasure en Christie. Je nommerai pas des garderies, là. Mais mes gars sont allés dans ces garderies-là, il y a encore les mêmes jouets. Là. Parce que mes gars, ils se rasent. Là. Ça fait longtemps, là.
L'angle mort du documentaire, c'est on parle pas ou très peu du privé, où ça fonctionne.
Comment ça se fait qu'on a l'impression, tu me diras si j'ai tort, qu'une école au privé, ça se fait plus vite, moins cher et plus adapté qu'au public?
Dans le privé, il y a l'imputabilité. Le directeur d'école qui est là, oui. Il y a un budget à respecter. Alors, il est là pas juste au début du projet. Dans mon cas, le directeur était là à toutes les réunions. Tous les choix qu'on fait, est-ce qu'ils sont judicieux? Est-ce qu'ils sont importants? Où est-ce qu'on peut sauver de l'argent?
Oui.
On n'a pas cette agilité dans le public. Alors, c'est ça qui fait la très, très grande différence.
Ah, puis dans le privé non plus, il n'y a pas de rond de cuir qui t'empêche de tourner en rond.
Oui, bien ça, c'est ça. Après ça, ils vont voir les politiciens et ils disent « Ouais, mais c'est normal, c'est correct que ça soit de même. »
Je pense qu'au Québec, parce que c'est le gouvernement, ben on pèse un peu plus sur le crayon. Mais oui, il y a de la bureaucratie parce qu'il y a plus de règles. Fait que l'entrepreneur, oui. Lui, va me protéger. De l'argent pour que ça va coûter plus cher.
On est imputable des dépenses qu'on fait au gouvernement et c'est une bonne chose. On doit être imputable de chaque dollar qu'on dépense et c'est normal d'avoir des règles d'octroi de contrat. Tu sais, on est tous pour la vertu, mais quand on doit respecter les règles d'octroi des contrats, de la loi sur les contrats publics, on trouve que c'est beaucoup trop contraignant.
Ben, Sonia...
Mais en même temps, les projets au privé sont pas tout croches, là. C'est drôle, ça fonctionne. Et là, je termine là-dessus, il m'en reste un dernier. Ils arrivent à la fin, la conclusion de tout. Ils ont comme oublié le privé, là. Il va falloir que le monde paye plus cher.
Comme État, on n'a pas les moyens... du système d'éducation qu'on voudrait avoir.
C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens d'aller aussi vite que Ricardo voudrait aller.
Mais je suis pas tout seul. J'ai parlé à bien des parents.
On est 9 millions de population. On n'est pas 50 millions. Et en plus, on coupe les impôts, coupe les taxes, coupe les revenus. Je veux dire, c'est mathématique à la fin.
Mais ce sont des choix politiques.
Même pas. Ce sont des choix politiques qu'un gouvernement fait.
Non, il faudrait vous charger plus d'impôts, plus de taxes. Ça serait ça qui réglerait tout.
Par élève, et on va. Là, on est en train de manger le lunch des autres invités, là. Fait qu'il faut faire la pause, là, mais je finis avec ça. Par élève, au Québec, 19 484 $. En Alberta, 13 494 $. On met 6 000 de plus par élève au Québec. Est-ce que ça paraît? On revient à Radio X.
Morais. C'est une bonne idée.
Téléphone, texto, 418-670-9098.
Morey, live.
Radio X.